Bonsoir. Un réseau mafieux qui a élu domicile dans l'administration publique détourne à Kinshasa environ 11,7 millions de dollars par trimestre dans les secteurs de la santé, de l'enseignement primaire et secondaire et de l'enseignement supérieur et universitaire. Déclaration du ministre d'État au budget qui a rendu public la semaine dernière les résultats de la mission de contrôle de la paix initiée par le gouvernement dans ces trois secteurs clés. Selon le ministre, les réseaux mis en cause ont des ramifications dans tous les secteurs de la fonction publique. Quelle analyse faire de ces révélations? Nous en parlons avec Raymond Doudi, le secrétaire général intérimaire au ministère du Budget. Bonsoir, monsieur Raymond Doudi.
Bonsoir.
Emery Okundji, député national de l'opposition, il est cadre du parti politique FONUS et il est également président du réseau parlementaire pour les droits de l'homme. Bonsoir, honorable Emery Okundji.
Bonsoir.
Et Michel Somouin, analyste économique. Bonsoir, monsieur Michel Somouin.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le ministre d'État et ministre du Budget a rendu public la semaine dernière les résultats de la mission de contrôle de la paix initiée par le gouvernement dans trois secteurs clés. Selon les communiqués signés jeudi 22 octobre dernier par le professeur Michel Bongongo, un réseau mafieux qui a élu domicile dans l'administration publique détourne ici à Kinshasa plus de 10 milliards 900 millions de francs congolais par trimestre dans les secteurs de la santé, enseignement primaire et secondaire et enseignement supérieur et universitaire. Les détails avec Askin Zigbiata.
Ces résultats sont obtenus après trois mois d'intense travail effectué par la mission de contrôle de la paix sous supervision du ministère des Budgets. Il ressort du communiqué de Michel Bongongo que plus de 10 milliards 900 millions de francs congolais sont frauduleusement soutirés de la caisse du trésor public au nom des services du ministère de l'enseignement supérieur universitaire, l'enseignement primaire secondaire et santé. Cette colossale somme ne concerne que la ville-province de Kinshasa. Ce montant a été certifié par un procès verbal d'une commission composée de syndicalistes et experts du ministère de Budget, laquelle mission a pu vérifier l'effectivité des détournements de cet argent par un réseau mafieux qui a des ramifications au sein de l'administration publique. Dans ce communiqué du ministère de Budget, les directives du gouvernement Matata Ponyo sont claires. Cet argent est destiné à l'amélioration des conditions salariales des agents et fonctionnaires de l'État, surtout de mettre un terme au phénomène malveillant des agents non payés communément appelés NP. Le ministre d'État Michel Bongongo dit apprécier ces résultats de la mission de contrôle de la paix. Il projette au nom du gouvernement d'étendre le contrôle de la paix à l'intérieur du pays et dans tous les autres secteurs de l'administration publique de la ville de Kinshasa.
Merci Askin Zigbiata Yoro. Raymond Doudi, je rappelle que vous êtes secrétaire général intérimaire au ministère du Budget. Plus de 10 milliards 900 millions de francs congolais, environ 11,7 millions de dollars détournés chaque trimestre ici à Kinshasa. Comment vous expliquez cela?
Bien, merci beaucoup pour la parole. Effectivement, la mission de contrôle qui vient de s'effectuer à une genèse. Vous savez que chaque année, nous avons des revendications au niveau des différentes corporations, que ce soit les médecins, les magistrats et autres, y compris les fonctionnaires de l'État. Et pour la mission qui a été instituée, tout est parti d'abord des revendications des médecins. Et le gouvernement s'est trouvé dans l'incapacité de résoudre leurs problèmes à travers les recettes publiques. Et en ce moment-là, il a pris la résolution de rechercher le fonds à travers la rationalisation de la dépense. Et en effectuant cette mission sur les médecins, on a constaté effectivement qu'on a récupéré plus ou moins 170 millions de francs congolais par mois qui se volatilisaient chaque mois à travers, n'est-ce pas, le paiement de fonctionnaires de l'État. Et de cette manière, le gouvernement a cherché à élargir à trois secteurs clés, ce qui a été fait, secteur de la santé, le secteur de l'ICRS, et le secteur de l'EPS et ETP. Et en faisant le contrôle, comme vous venez de le dire là, on a pu récupérer plus ou moins 11,7 millions de dollars, ce qui représente plus ou moins 3 millions de dollars par mois, qui se volatilisait, disons qui n'était pas maîtrisé, soit dans le cadre des rémunérations, soit dans les frais de fonctionnement. Et c'est de cette manière qu'on a pris la décision maintenant d'élargir cette mission en province et de l'élargir à d'autres secteurs de l'administration publique.
Monsieur Raymond Ndoudi, vous dites que cet argent, 11 700 000 dollars, s'est volatilisé à travers la paye des fonctionnaires de l'État. On sait que la paye est contenue dans un long processus. Et à quel niveau de ce processus cette fraude a été décelée? C'est en amont lorsque les listings sont établis par les différents secrétariats généraux des différents ministères, ou c'est en aval lorsque les banques payent effectivement?
En fait, le circuit de la paye fait intervenir beaucoup de gens, c'est-à-dire ça part du ministère qui gère le personnel, le ministère donneur d'ordre, en passant par la paye jusqu'à la banque. Donc, ce qu'on a pu constater, c'est au niveau de l'ensemble du circuit. C'est l'ensemble du circuit qui, parce que il n'est pas possible de faire l'opération en un seul point. C'est l'ensemble du circuit. Certaines irrégularités sont constatées au niveau des services donneurs d'ordre. D'autres, c'est au niveau des services qui liquident. Et d'autres encore au niveau de services qui payent ou qui remettent l'argent au niveau des bénéficiaires.
Monsieur Raymond Ndoudi, 11 700 000 dollars par trimestre, cela veut dire que par mois, c'est 3 900 000 dollars. Donc, dans une année, le trésor public perd environ 46 800 000 dollars. Est-ce que vous êtes surpris par ces chiffres? Parce qu'il y a des experts qui estiment que c'est un secret de Polichinelle, que cette fraude est connue de tous.
C'est un chiffre effectivement qui donne la chair de poule, parce que on ne pouvait pas s'imaginer que cela pouvait se faire. Mais ici, je voudrais indiquer que lorsqu'on parle de la paie ici ou des récupérations, il s'agit des récupérations constatées dans les opérations des paies effectives, c'est-à-dire lorsque lorsqu'on voit c'est le contenu, en fait, lorsqu'on voit les doublons, lorsqu'on voit les fictifs, lorsqu'on voit les décédés qui bénéficient de paiements pleins, lorsqu'on regarde les déserteurs.
Et donc, cela veut dire qu'il y a plusieurs listings. Il y a des listings qui sont établis par les intérêts généraux, ou il y a des listings qui sont établis par ces différents réseaux mafieux?
Non, il y a plutôt beaucoup de situations qu'on retrouve, beaucoup d'états, genres d'états. Vous pouvez faire, vous avez des listes concernant les décédés qui ont leur barème de traitement. Mais vous avez aussi les gens qui peuvent avoir abandonné l'administration, mais qu'on n'a pas pu, n'est-ce pas, de sceller à temps et signaler pour qu'on bloque leur salaire. Par exemple, vous avez des déserteurs qui sont partis, et si on ne signale pas, ça veut dire que leur argent continue à sortir.
Et donc, il y a un certain dysfonctionnement au sein de l'administration publique.
Au sein de l'administration publique. Donc, c'est un peu tout ça. C'est ça l'avantage, justement, de ce contrôle. C'est de permettre à l'administration, n'est-ce pas, de se ressaisir et de régulariser pour qu'on arrive à finalement à réguler l'administration, pour que l'administration fonctionne de manière régulière, en maîtrisant toutes les statistiques du personnel, le personnel décédé, le personnel en disponibilité, le personnel en détachement. Donc toutes ces rubriques-là doivent être maîtrisées.
Monsieur Raymond, brièvement, on se rappelle que le processus de bancarisation a été initié notamment pour assurer efficacement la sécurité de la paie des fonctionnaires. Et avec toutes ces fraudes, peut-on dire que la bancarisation a atteint son objectif?
Bon, la bancarisation, c'est un processus. C'est un processus qui a commencé et qui a porté des fruits, mais qui doit se poursuivre. Et pour que la bancarisation soit plus efficace, il faut qu'en amont, n'est-ce pas, les listings, les fichiers de paie soient assainis. C'est-à-dire au niveau des services donneurs d'ordre, il faut qu'il y ait cet assainissement pour que lorsqu'on liquide et tout ça, qu'il n'y ait pas, n'est-ce pas, un personnel flottant ou des fictifs ou des déserteurs qui pour lesquels l'argent continue à sortir à la banque. Donc merci. C'est un travail de fond qui doit être fait.
Merci Emery Okundji, député national de l'opposition et cadre du parti politique FONUS. Vous êtes également président du réseau parlementaire pour les droits de l'homme. Environ 11 700 000 dollars détournés par trimestre dans la seule ville de Kinshasa et dans seulement 3 secteurs de l'administration publique. Comment vous réagissez face à ces différentes révélations?
Ben, vous savez, nous sommes scandalisés, mais ce n'est pas une surprise pour nous. Parce que nous ne cessions de dénoncer cela à travers des faits que nous constations lorsque nous partons très souvent en vacances parlementaires. Moi-même, je l'ai constaté dans ma circonscription électorale à Lubefu, au niveau de l'ISP Lubefu. L'État donnait chaque mois une enveloppe d'environ 6 468 000 dollars, si ma mémoire ne me trahit pas, mais n'arrivait à l'ISP Lubefu que 2 millions quelque chose. Et de moi-même, j'ai pris le temps de faire suivre cette opération mafieuse qui fait que l'argent débloqué à Kinshasa n'arrivait pas dans sa totalité à Lubefu. Et j'ai tout de suite là démantelé les raisons. Chaque fois que l'argent arrivait à Lodja, eh bien, c'est les administratifs du ministère au niveau de Lodja qui s'arrangeaient avec le DG de l'époque, le DG AI de l'époque, et qui faisaient une certaine opération retour même à certaines autorités ici à Kinshasa. Et donc, ce n'est pas nouveau, mais je salue le courage de l'actuel ministre d'État qui, en tout cas, a fait que les choses soient officiellement connues. Et maintenant que c'est connu, qu'est-ce que nous devons faire pour arrêter cet état des choses? Voilà, c'est cela le plus important.
On va en parler. Vous dites que vous avez été aussi, ce n'est pas la première fois
oui.
que l'on constate un tel phénomène, parce que vous avez plusieurs fois dénoncé cette fraude. Apparemment, vous avez été les premiers, n'est-ce pas, à déceler ces différents réseaux mafieux. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour que cela soit connu officiellement? Pourquoi vous avez dit que le gouvernement puisse les dénoncer ouvertement alors que vous l'aviez déjà fait avant le gouvernement?
Mon cher ami, vous soulignez très bien que ce sont des réseaux mafieux. Et donc, ils ont des ramifications à tous les niveaux. Combien de fois le contrôle parlementaire n'a pas été bloqué à un certain niveau?
À quel niveau?
À plusieurs niveaux. Rappelez-vous, encore à l'époque de Vital Kamerhe, on a mis une commission qui allait sillonner toute la République démocratique du Congo pour contrôler la gestion des finances publiques. Cela a été bloqué. Plusieurs commissions d'enquête parlementaires sont bloquées. Et donc, vous comprendrez que c'est un réseau mafieux qui a des ramifications à tous les niveaux. C'est un fléau, mais un fléau que nous devons combattre avec beaucoup de courage. Alors, c'est pour cette raison,
oui.
C'est pour cette raison que je disais tantôt que je salue le courage du ministre d'État, puisque ce que disait, ce que venait de dire le secrétaire général. Mais c'est visible au niveau, par exemple, du ministère de la Santé. Savez-vous que au niveau des provinces, on ne respecte jamais les listings qui proviennent de Kinshasa? Chaque fois, à chaque mois, chaque fin du mois, que la Kinshasa envoie des listings au niveau des chefs-lieux des provinces, ils établissent leur liste à eux pour payer les fonctionnaires au niveau du ministère de la Santé, par exemple. Ce sont des faits connus de tout le monde. Et donc, le vol de l'argent de l'État devient en quelque sorte mode de gestion des finances de la République. Et donc, il faudrait que nous puissions tout mettre en œuvre pour arrêter cet état des choses.
Alors maintenant que le gouvernement vient de dénoncer ce que vous saviez déjà, vous parlementaires, oui. Est-ce que vous êtes prêts à accompagner le gouvernement dans cette lutte contre cette fraude?
C'est la mission même qui fonde notre existence. Mais je déplore le fait qu'il y a des pesanteurs. C'est la mission qui fonde l'existence. Vous savez que...
Quels sont ces présenteurs?
Ah ben, les interférences politiques. Je peux illustrer par beaucoup d'exemples. Le câble à fibre optique, où en sommes-nous? La gestion de la taxe que les Congolaises et Congolais payent à l'aéroport de Djili. La taxe la plus chère d'ailleurs. $50 pour l'étranger. $10 pour l'intérieur du pays. Ajouté à cela, $5 de la ville. Où en sommes-nous? C'était institué pourquoi cette taxe? C'est pour construire les différents aéroports à travers l'étendue du territoire national. Plus de 5 ans aujourd'hui, où en sommes-nous? Il y a une litanie d'exemples que je peux donner aujourd'hui. Et donc, il faut qu'il y ait du courage politique, puisque le mal a atteint le sommet de l'État.
Alors, le courage politique, ça ne commence pas par ces faits que le gouvernement vient de dénoncer, parce que vous avez parlé des pesanteurs, oui. Et notamment les interférences politiques, mais dès lors que le gouvernement lui-même s'implique dans cette lutte, on peut espérer qu'il n'y aura plus d'interférences politiques.
Ah, je l'espère, mais il n'y a pas longtemps ici, j'ai vu le conseiller spécial du chef de l'État en matière de corruption publier une liste ou transmettre une liste qui n'a plus d'effet jusqu'aujourd'hui. Et donc, c'est dit à quoi? C'est la question que nous nous posons. C'est encore une preuve patente de pesanteur. Et donc, il faudrait que nous puissions, qu'il y ait une volonté politique manifeste de mettre fin aux antivaleurs qui rongent les finances, qui saignent à blanc les finances de la République démocratique du Congo. C'est pas pour rien que nous décrions que nous avons un budget modique et un budget modique. C'est tout simplement parce que toutes les recettes de l'État ne sont pas totalement canalisées vers le compte du Trésor, le compte général du Trésor. Et donc, nous devons en tout cas boucher ces trous. Vous savez, opérer des réformes quand vous avez affaire à des réseaux mafieux, c'est pas facile. Mais il faut du courage politique. Il faut qu'il y ait la volonté politique manifeste de mettre fin à cet état des choses. Et là, je salue le courage du ministre d'État et il doit aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, ne pas s'arrêter seulement à démanteler les réseaux. Il faudrait que ceux-là, ces criminels-là, répondent de leurs actes devant les instances compétentes.
Et à cet effet, vous devez l'accompagner, vous, parlementaire.
Effectivement, effectivement.
Michel Somoé, analyste économique, comment vous analysez ces différentes révélations issues de la mission de contrôle de la PAI?
Merci Guy. J'allais commencer par dire, heureusement qu'il existe des doublons, des fictifs, et tout ça parce que pour avoir été pris en compte dans l'élaboration des prévisions budgétaires, nous avons pu augmenter quand même notre budget de quelques chiffres, alors qu'il s'agissait des chiffres affectés ou plutôt destinés à des doublons. Si ces doublons avaient été connus avant les élaborations des différentes prévisions budgétaires, nos budgets seraient davantage encore plus chétifs. Ça, c'est une petite mise en garde. Non pas que je suis pour les doublons, mais je voudrais simplement dire, pour revenir à la question de ce soir, que les révélations de Monsieur le ministre d'État au budget m'inspirent deux choses. La première chose, c'est que l'opération de bancarisation de la paie a été plutôt un tapage médiatique pour rien. Parce que si je fais des simulations arithmétiques, en partant de 11 700 000 dollars pour la seule ville de Kinshasa, sur toute l'étendue de la République, si on élargit ce contrôle, nous serons à combien de centaines de millions de dollars? Non seulement c'est pour la seule ville de Kinshasa, mais c'est aussi simplement pour trois secteurs. Et d'ailleurs, je ne m'empresserai pas, comme l'honorable député, à jeter des fleurs au ministre du budget parce qu'on n'a pas contrôlé son propre ministère. On a contrôlé le ministère de la Santé, le ministère de l'Enseignement supérieur universitaire, le ministère de l'Enseignement primaire. Quand on va élargir ce contrôle...
Il a promis qu'il va étendre
l'enquête. Y compris son ministère aussi. Il faudrait
tous les secteurs.
J'ai eu une petite expérience je reviendrai à une deuxième raison. J'ai eu cette expérience au ministère du budget pour y avoir été un jour directeur de cabinet du ministre. Et je sais que le principal foyer de l'élaboration de cette mafia, c'est la direction de la paye. Nous voulons bien savoir qu'est-ce que le ministre du budget va réserver comme sanction à son directeur de la paye. Et je voudrais qu'une enquête soit faite au sein du ministère du budget dans cette direction de la paye.
Vous avez suivi M. Raymond Doudi qui estime que la fraude, c'est dans tous les circuits de la paye.
J'aurais aimé entendre M. Raymond Doudi dire que nous allons faire le contrôle dans tous les ministères en commençant par chez nous, au ministère du budget, dont il est le secrétaire général. Et le directeur de la paix dont je parle, il est sous ses ordres. Je ne l'accuse pas, mais je voudrais, pour des raisons de transparence, afin que je vienne moi aussi joindre ma voix à celle de l'honorable Mary Okundji, qui jette des fleurs au ministre d'État au budget, je voudrais avoir de bonnes raisons de lui adresser mes félicitations quand j'apprendrai qu'on a fait le contrôle dans son propre ministère, y compris dans son cabinet. Ça, c'est important, il faut le dire. Donc, je disais tout à l'heure que ça signifie pour moi que l'opération de la bancarisation a été un tapage médiatique inutile. Parce que si nous faisons des calculs en partant de 11 millions pour la seule ville de Kinshasa, et rien que pour trois secteurs de l'administration publique, je me dis, quand sera-t-il lorsqu'il sera question d'aller à l'armée, à la police, au ministère du budget, au ministère des finances, à la fonction publique, et partout là, quand on en viendra à tous les secteurs de la vie publique? Quand sera-t-il, et pour toute l'étendue de la République? Le secrétaire général a eu le juste mot en disant « ça donne de la chair, comment on dit encore, la chair de poule ». La deuxième analyse que je fais de cette déclaration du ministre d'État, c'est que nous sommes dans un système pourri. Écoutez, je ne suis pas particulièrement plus impressionné par ce détournement de 11 700 000. Lorsque, me trouvant à côté du député national, il oublie qu'il y a des détournements chaque jour dans l'exécution du budget de l'État. Où passent les différentes, ressources affectées à des dépenses précises? Il est à côté de moi, il est de l'opposition. Je les ai entendus clamer très haut et très fort que l'argent qui était destiné à l'organisation, au financement des élections, c'est-à-dire l'argent destiné à la CENI, n'est pas arrivé à la CENI. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle détournement. Et ce que ces fonctionnaires ont fait, ou ce réseau mafieux, comme on l'appelle, a fait, ça s'appelle aussi détournement. Omnia peccata paria sunt, dit-on en latin. Il n'y a pas de petit péché, de grand péché, tous les péchés sont égaux. Il n'y a pas un petit détournement, un grand détournement. Il n'y a pas un détournement à justifier et un détournement qui ne peut pas être justifié. Donc je crois que quand il y a un détournement, c'est un détournement. Et il mérite la même sanction de la même façon. Et moi je constate en analysant l'exécution du budget, différents budgets de l'État, je constate que nous sommes un pays de détournement. Nous sommes dans un système de détournement. Et je ne voudrais pas qu'on s'en prenne à des simples petits fonctionnaires qui ne font que suivre l'exemple des grands poissons. Parce qu'on dit chez les Chinois, le poisson pourrit par la tête. Mais lorsque les grands commencent... Écoutez, monsieur Dieu, je vois que vous êtes prêt à me poser une autre question, mais laissez-moi finir. Lorsque je me rends compte, je suis fonctionnaire de l'État, je vois venir un ministre à la tête de notre département. Il est comme tous les autres citoyens. 3-4 mois après, il se tape un luxe insolent. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse?
que moi, je me presse moi d'aller au paradis de ceux qui partent de voler. Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. Les plus malins se disent, on va copier le mal. Et puis on se retourne pour dire, non, ils sont des tourneurs. Sanctionnons tout le monde.
Parce que vous avez évoqué la bancarisation, on sait qu'elle a été initiée pour notamment combattre ces détournements des deniers publics. Mais on se rend compte que de plus en plus, des réseaux se constituent dans l'administration publique et contournent les mécanismes qui ont été mis en place par la bancarisation. Comment on peut expliquer cela?
Ça veut dire que la bancarisation n'est pas une opération intelligente. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Parce que je crois qu'il faut réfléchir. Est-ce que, d'abord, les économies qui ont été faites de cette bancarisation, peut-être que le député à côté de moi pourrait nous y aider, parce que moi je n'avais pas une bonne information. Les bénéfices de la bancarisation, vous avez dit plusieurs fois sur ce plateau de Radio Okapi, j'ai eu à démontrer que les coûts de la bancarisation sont supérieurs aux bénéfices de la bancarisation. On doit donc comprendre quelle est la raison fondamentale pour laquelle le gouvernement s'est entêté à nous donner une opération qui, somme toute, ne nous a conduit à aucun résultat positif. Ça n'a ni annihilé la fraude massive, le détournement de la paye, ni apporter un quelconque bénéfice économique ou financier à l'État.
Et quand vous dites que les coûts de la bancarisation sont supérieurs aux bénéfices, vous vous basez sur quelles données?
Mais nous avons commencé par démontrer ici à Radio Okapi que le gouvernement s'était notamment engagé à prendre en charge les frais bancaires des agents et fonctionnaires qui étaient bancarisés. Donc le gouvernement a supporté ces frais qui étaient énormes. Et ces frais qui, somme toute, nous pouvons l'imaginer, attention, je suis un financier, nous pouvons faire l'audit un jour aussi, les banques se sont engraissées dans cette opération en surchargeant l'État des frais bancaires. L'État a payé très cher cette opération.
Merci, M. Raymond Ndoudi. Il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Bukavu, au sud de Kivu.
Révélations du ministre des Budgets sont vraies. Cependant, je ne crois pas que ce soit facile de démanteler les différents réseaux mafieux à la base des tournements de fonds de l'État dans tous les secteurs de la fonction publique, tant que la complicité ne cessera d'émaner aussi de certaines hautes autorités du pays. Mieux vaut donc ne pas parler de ces dossiers, car jamais la justice ne s'en occupera sérieusement pour pouvoir appliquer la loi ou carrément punir comme il se doit. Sauf bien entendu le contraire.
Monsieur Raymond Ndoudi.
Oui, merci beaucoup. Mais avant de répondre
à Robert Baumé de Bukavu,
Robert, je voulais indiquer que il y a déjà des grands efforts qui sont faits au niveau du ministère du Budget
et qui sont même salués par les députés Omeri Okundji.
Oui, oui. Et notamment, d'abord, en ayant le courage d'entreprendre ce contrôle-là. Malgré les résistances. Et deuxièmement, le ministre lui-même, le ministre d'État, a pris des mesures conservatoires au niveau de la direction de la paye. Notamment, à travers, l'écartement, si je peux dire, provisoire de quelques agents de commandement. Qui était, n'est-ce pas, au niveau de la direction de la paye. Et ensuite, on a fait asseoir un système, parce que les faiblesses qu'on a constatées et qui favorisaient ces détournements étaient aussi liées au système utilisé. On utilisait le système, un système qui avait beaucoup de fichiers, qui ne permettait pas la traçabilité. C'est le système qu'on appelait PTS, le système paiement transitoire simplifié. Il y avait beaucoup de fichiers. Et donc le ministre a eu le courage de faire fonctionner un nouveau système qui est le système de gestion de la paye intégré dans CIGECPAF. Ce système-là a d'ailleurs permis de détecter, n'est-ce pas, lorsqu'il est installé au troisième trimestre, au deuxième trimestre, il a permis, n'est-ce pas, de détecter les doublons.
Parce que le système de gestion?
Oui, le nouveau système de gestion qui est instauré au niveau de la paye.
Qui remplace les PPS.
Qui en remplace la paye. Donc ça permet, n'est-ce pas, de détecter rapidement s'il y a un doublon. Ça permet de centraliser, n'est-ce pas, la paye de chaque individu, au lieu que ce soit éparpillé. Et donc, ça c'est pour dire qu'il y a déjà des efforts qui sont faits en améliorant l'outil, mais aussi en mettant de côté quelques agents qui étaient soupçonnés dans cette mafia.
Alors, s'il faut revenir maintenant à la question de Robert Bahomé, tant qu'il y a la complicité nécessaire à démaner aussi de certaines hautes autorités du pays, on ne saura pas combattre cette fraude.
Non, la fraude est en train d'être combattue parce que, comme je l'ai dit, la paye commence au niveau du donneur d'ordre jusqu'à la banque. Et donc, si l'administration fonctionne normalement, c'est-à-dire que au niveau du service donneur d'ordre, au niveau des ministères sectoriels, pour l'instant nous avons la santé, on a maîtrisé effectivement les effectifs et les listings. En ce moment-là, au niveau du contrôle, hein, on va avoir des résultats meilleurs que des résultats qu'on a eu avant.
Donc, c'est Michel Somoué qui a remis en cause, n'est-ce pas, la direction de la paye de votre ministère, le ministère du budget. Il pense que le centre de cette fraude, c'est la direction de la paye du ministère du budget.
J'ai dit que déjà le ministre a anticipé en agissant sur cette direction. D'abord, en améliorant leur outil de travail, parce que eux aussi, c'est à travers l'outil de travail qu'ils étaient en train de ne pas se retrouver. Donc il y a l'outil de travail qu'ils ont amélioré, mais aussi le personnel a été, n'est-ce pas, qui était douteux, a été écarté provisoirement.
Merci, honorable Emery Okundji. Il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Béni, au Nord Kivu.
Je réponds au nom de Gérard Kambale Kazingoufou, j'appelle à partir de Béni de la province du Nord Kivu. Je me demande à quoi est-ce que cette révélation du réseau mafieux dans le détournement de fonds destinés au paiement des agents de l'État sera différente des résultats des commissions de contrôle parlementaires qui jusqu'à ce jour sont classées sans suite. Bien au contraire, au Congo, les grands détourneurs bénéficient des postes stratégiques. On sait du gouvernement à guise de récompenses au nom de la majorité. Parce que les détourneurs savent très bien que non, ces révélations resteront sans suite.
Oui, honorable Emery Okundji.
Bien, merci. Gérard Kambale a raison. Et d'ailleurs, je l'ai dit ici que j'espère que cela ne va pas s'arrêter tout simplement au niveau des dénonciations. Il faudrait que ces criminels répondent de leurs actes devant les instances compétentes. Ça, je l'ai dit. Et donc, je partage son souci. Maintenant, revenons à ce que a dit Monsieur Michel Somoué. Vous savez, moi, je suis à mon deuxième mandat, excepté le mandat qu'on a été
pendant la transition.
Voilà, en tant que parlementaire. Et mon cher ami, je connais beaucoup de choses en ce qui concerne le détournement des deniers publics.
Vous connaissez beaucoup de choses que vous ne connaissez
pas. Oui, en tant que parlementaire.
Est-ce que vous les dénoncez?
Je l'ai toujours dénoncé. J'étais l'auteur de la vente des immeubles de la Banque Centrale. J'étais l'auteur de la question orale avec le débat. Je suis l'auteur de plusieurs questions qui sont bloquées, parce que ce sont des questions gênante. Et donc, j'en sais quelque chose. Mais voir un ministre qui est arrivé, je sais pas, il est arrivé au mois de décembre, par exemple, et qu'il commence par là, c'est un courage politique qu'il faut saluer. Pourquoi? Puisque l'enfant marche en commençant par un premier pas. Et maintenant, nous verrons la suite. C'est-à-dire que cela ne doit pas être discriminatoire. C'est limité seulement au ministère de l'EPSP, au ministère de la Santé, au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Ça doit être à tous les niveaux. Et surtout, le plus important, c'est de sanctionner ce qu'on a vu dans le passé, les gens dénonçaient, mais vous aviez vous-même vu, au niveau de la GECAMINE, on a démis de ses fonctions un DG qui aurait détourné 20 millions de dollars américains. Mais ce monsieur est là, et on n'a rien fait par la suite. Il n'a pas été traduit devant les instances compétentes pour qu'il soit jugé des faits qu'on lui reprocherait. Et il est là. Et donc, j'espère que cette fois-ci, nous irons jusqu'au bout. Il faut saluer le courage du ministre d'État qui, quand même, le fait de mettre ça sur la place publique, C'est déjà beaucoup.
Honorable, ces révélations, n'est-ce pas une occasion pour faire les bilans de la bancarisation? Vous avez suivi Michel Sommoy qui estime que cette bancarisation est un simple tapage médiatique.
Vous savez, je ne dirais pas en des termes qu'a dit M. Michel Sommoy. La bancarisation est un processus qui n'a pas résolu tous les problèmes, surtout les problèmes de détournement. Mais c'est un processus. Moi, je viens d'une circonscription électorale où je voyais comment les fonctionnaires de l'État, les enseignants souffraient. Tout simplement puisque les gens allaient chercher leur argent, soit en Mbujimayi, soit à Lodja, et ces gens-là décidaient d'autorité de la portion à retrancher de leur salaire. Et pourtant, les salaires, c'était un droit. Et donc, le fait que la personne reçoit, bien que c'est encore modique, reçoit ce qui lui est dit directement, c'est une chose à saluer. Ça, je vous dis intégralement, textuellement, c'est que mes électeurs m'ont dit. Mais il y a beaucoup de problèmes.
Et donc,
il y a beaucoup d'abus.
La bancarisation a ses côtés positifs.
Oui, il y a beaucoup d'abus au niveau des banques privées qui effectuent ces opérations. C'est pour cette raison que lorsque le ministre était dernièrement à l'Assemblée nationale, nous lui avions demandé de faire un effort, d'implanter, de construire, ne serait-ce que des CADECO à travers chaque territoire de la République démocratique du Congo, pour réduire le coût des opérations qu'exigent des banques privées.
Merci, Michel Sommoy. Il y a une question qui vous est adressée. Elle vient de Kolozi, province de Lualaba.
Professeur Ignace Lala, depuis Kolozi, dans le Lualaba, tout en félicitant le ministre pour cette découverte, cependant, il fait de reconnaître que l'appareil de l'État est fragile ou dépourvu d'un système de contrôle souple, ou alors il est constitué des réseaux de fraude bien parrainés par des parapluies. Sinon, comment des millions de dollars peuvent échapper ainsi? Tous les ministres passés, je pense bien, dans un passé récent, et l'actuel devrait être entendu.
Oui, Michel Sommoy.
C'est exactement ce que nous sommes entendus dire. C'est ce que le professeur Ignace dit depuis le Katanga. L'appareil de l'État, il est infesté de l'intérieur, il est fragile, il est truffé des réseaux mafieux. Ce sont des hauts cadres de l'État qui le font. Donc, nous le disons très bien, il le dit très correctement, mais je répète mes mots par rapport à ce que dit l'honorable. Je dis, ce qu'il salue comme courage politique, moi, je dis, je me réserve de saluer. Parce que nous sommes habitués à ce tapage, à ce show médiatique.
Ne faut-il pas commencer quelque part?
Non, écoutez, l'opinion publique, c'est un élu du peuple. Et c'est que moi, le peuple, excusez-moi de dire comme ça, moi je suis le peuple, je fais partie de ceux qui l'ont élu. Nous sommes fatigués des dénonciations qui viennent justement de la part de ceux que nous mettons en cause. Mais alors, moi, j'ai peur, excusez-moi, je n'accuse pas le ministre d'État, je parle du système, j'ai peur que nous soyons en train de jouer régulièrement au jeu du voleur qui crie au voleur. Ça, c'est un jeu que nous devons quand même craindre dans ce pays parce que ça devient régulier. Surtout que dans ce pays-là, nous savons que quand nous entrons au gouvernement, nous sommes supposés déclarer nos biens. Mais pourquoi, quand on sort du gouvernement, on ne fait pas la restitution, la comptabilité?
Alors,
nous voulons le savoir. C'est un système qui est instauré pour favoriser cette détournement.
À votre avis, que faut-il pour combattre efficacement la fraude dans l'administration publique?
Répondez l'État. Il nous faut un autre État. Il nous faut un autre Congo qui a une autre conscience, qui a le sens du bien public, qui a le sens du respect de la chose publique. Il nous faut un autre Congo qui soit dans lequel les dirigeants savent qu'ils ne sont que des simples mandataires et que ceux qui sont en train de gérer, ils ont la responsabilité de rendre compte. Il faut une comptabilité. Il nous faut un autre Congo capable de nous doter des institutions véritables à travers des hommes d'une bonne conscience, d'une bonne moralité. Ça doit être un des critères de choix de nos hommes. La moralité d'abord. On doit instaurer dans ce pays le sens de la vertu chrétienne. Je ne suis pas contre les musulmans, je veux dire de la vertu tout court. Il faut qu'il y ait une vertu. Quel est le critère sur base duquel on nomme un ministre? On élit un député. Sur base de quel critère? Pourquoi on exclut les 10 commandements de Dieu
du choix des hommes qui nous dirigent. On doit en tenir compte. Pourquoi dans la gestion de la chose publique, on ne se soucie pas de ne pas faire ce qu'on appelle publiquement, parce que nous avons grandi tous avec ça, nous sommes un pays chrétien, on a grandi tous avec le sens de la crainte de Dieu, de la crainte du péché, de la crainte du mal. Pourquoi chez nous c'est devenu, on trouve ça, c'est une simple blague. Je reviens, si vous me permettez, un tout petit peu à la bancarisation. Je voudrais que l'honorable député se rappelle que ce qu'il reproche aux agents payeurs qui amputaient le salaire des agents, c'est exactement ce que les banques font. Il faut qu'ils le sachent. Il faut qu'ils sachent qu'on n'a fait que déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Les banques, à travers les frais bancaires, prélèvent de la même façon.
Alors, comment on peut expliquer cela? Parce qu'on met en place des mécanismes pour combattre la fraude, mais des réseaux sont constitués pour contourner ces mécanismes. Est-ce que ce n'est pas lié aussi aux revenus des Congolais? Lorsqu'on a du mal à nouer les deux bouts du mois avec les salaires que l'on gagne, n'est-ce pas que l'on est la proie facile à toute tentation? N'est-ce pas qu'il faut commencer par là, commencer par améliorer les conditions de vie de la population,
non,
en créant notamment des emplois et payant des bons salaires.
Non. Vous savez, Guy, vous allez vous rendre compte dans ce pays que les plus grands voleurs sont justement ceux qui sont les mieux payés dans ce pays. Nous, ne l'oubliez pas.
Donc, il faut refonder l'État.
Je vous l'ai dit, il faut refonder l'État. Merci. Et remettre la morale au centre du débat politique.
Monsieur Raymond Doudi, que faut-il pour combattre efficacement la fraude dans l'administration publique? Michel Sommet propose la refondation de l'État.
Pour moi, de mon côté, je propose la redynamisation de l'administration publique.
Il faut redynamiser l'administration publique.
Parce que c'est à travers cet instrument qu'on peut arriver à une bonne gouvernance. Tenez, les cas que nous sommes en train d'observer et qui constituent les montants récupérés, ce sont des cas liés essentiellement à la manière d'administrer. Notamment, lorsque vous allez dans un service et qu'il y a des décédés qui continuent à toucher l'argent pendant 3 ans, 4 ans, alors que la loi donne un délai de 6 mois pour convertir le salaire de base en rente ou le meilleur en retraité, vous comprenez qu'il y a des problèmes. Donc, si on redynamise l'administration, en ce moment-là, on sait saisir, suivant les principes qui sont établis par le statut, qui est déserteur, qui est mis en disponibilité, qui est mis en détachement, qui est décédé, qui est retraité. En ce moment-là, on peut réduire essentiellement la partie qui constitue les rémunérations. Mais je voudrais ajouter que dans les 11 millions, il n'y a pas que les éléments des rémunérations. Vous avez aussi des éléments liés au fonctionnement des administrations.
Monsieur Raymond Doudi, on va conclure parce que nous sommes à la fin de l'émission. Vous avez décelé les différents réseaux mafieux. Cela veut dire que vous avez identifié les personnes qui constituent ces réseaux. Qui sont plutôt ces personnes?
Non, nous avons identifié dans un premier temps les postes sur lesquels, par lesquels venaient les fuites d'argent. C'est-à-dire, si par exemple vous n'avez pas converti les décédés, automatiquement vous allez voir si vous avez 10 000 personnes qui sont décédées que vous n'avez pas converti, automatiquement l'État perd.
Et donc les personnes ne sont pas encore identifiées?
Les personnes... non, le processus continue, le contrôle continue. Et maintenant qu'on va commencer à appliquer le résultat, n'est-ce pas, de la certification, on va en ce moment découvrir effectivement les personnes qui touchaient deux fois ou bien qui bénéficiaient de cet argent.
Honorable Emery Okundji, que faut-il pour combattre efficacement la fraude dans l'administration publique? Vous avez suivi Michel Sommo qui propose notamment la refondation de l'État et M. Raymond Doudi qui propose la redynamisation de l'administration publique.
Je suis tout à fait d'accord. Il faut la refondation de l'État et le rajeunissement, la réforme, si vous voulez, de l'administration publique.
En conclusion,
mais le plus important, c'est quoi? Ce ne sont pas les lois qui nous manquent, ce ne sont pas les règles qui nous manquent, mais les hommes et femmes capables d'appliquer scrupuleusement ces lois, ces règles, ces repères, ces normes qui régissent la République et la volonté politique du Congo. Il n'y a pas la volonté politique, puisque, comme l'a dit M. Michel Somoué, le poisson pourrit par la tête. Et donc, dès que la tête est pourrie, eh bien, vous comprendrez, le reste ne peut que subir un effet des transmissions.
Merci.
Et donc, aujourd'hui, il faudrait sanctionner.
Merci.
Sanctionner surtout conformément aux lois qui régissent la République.
On a compris, Michel Somoué, votre conclusion.
J'attends qu'un seul ministre lève son bout de doigt pour me dire que lui n'a pas détourné, que lui n'a pas volé un sou dans ce pays. C'est cela que moi j'attends. Et tant que nous n'avons pas encore fait cette confession publique des animaux malades de la peste, il faut qu'on s'arrête de raconter des mensonges.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Paul Badianyama qui est à la technique et à toute l'équipe Dialogue entre Congolais, Alain Irung, Kelling Touté, Berry Franklin Loukiaka, sous la supervision de Pelle Kipela Mondo, à la présentation Guy Maté. Merci et bon suivi de programme sur Radio Capi. Thank you.